vous accueillir et de démarrer la première table ronde dans la salle que moi j'appelle maintenant chez Yal. Voilà. Donc c'est important qu'on arrive à le faire parce que Yal a été notre parrain, notre invité d'honneur à la première édition, et qu'il restera pour nous le seul parrain, jamais on le remplacera. On a eu un parrain, il est irremplaçable. Donc voilà. Sur ce, j'ai à côté de moi une belle brochette d'éditeurs régionaux.
C'est bon.
Bon, tu aurais dû faire un effort parce que tu n'es pas aussi barbu que les deux autres.
Ouais, mais j'ai été obligé de couper.
On l'a fait dans l'ordre, sur un vrai, dans le petit à droite, et puis progressivement.
Voilà, c'est ça.
On a du poème,
les si vous changez de place, en plus, on fait les Dalton, ça va être trop classe.
C'est bon, je connais Joe.
Donc, à ma gauche immédiate, M. Jérôme Vincent, directeur des éditions ActuSF et représentant les Indés de l'imaginaire. Est-ce que vous connaissez un petit peu la production des Indés ou pas du tout? J'en profite, hein, comme on n'est pas nombreux, parce qu'il y a des choses comme ça, c'est plus sympa. Donc, sont les ténors régionaux, j'ai envie de dire, les Indés, en tant que consortium en tout cas.
Super.
Vous êtes là depuis un bon moment quand même, maintenant sur le terrain, depuis plus de 10 ans. Et vous avez un talent de dénicheur de talent. C'était élégant comme ça.
C'était beau.
Un don de dénicheur de talent assez exceptionnel. Juste à côté, on est plus. On descend en capacité de production actuelle.
J'ai cru que tu allais dire en qualité.
Certainement pas.
J'ai cru que tu allais dire en taille.
En revanche, tu avais parfaitement raison.
Donc, Lévi Atuil, le patron des éditions Le Peuple de Mu, qui a maintenant 4 ans.
3 ans et demi.
3 ans et demi. Ouais, on chipote. Édition de qualité, dénicheurs de talent également, qui prennent des risques aussi dans leur choix de texte et qui commencent à peine à faire parler d'eux. Et tout au bout, Jean-Yves.
Je pense qu'on peut faire une petite aparté sur le dépôt imaginaire.
Ah oui, bah, très juste. Très juste.
On
le fera à la fin.
Oui, présentez.
Bon, allez, on le fera à la fin. Et puis, tout au bout, Jean-Emmanuel Aubert, qui représente les éditions organiques, qui en fait sont gérées par une association. Je ne dis pas de bêtises, tu m'arrêtes.
Fait ça.
Voilà. Et qui ont une production particulière sur les petites bulles d'univers. C'est un opérateur très particulier du monde culturel, puisqu'ils allient l'art contemporain et des textes d'auteurs réputés. Ces auteurs se livrent à l'exercice d'illustrer. Rédiger, de raconter une histoire à partir de la production artistique. Donc c'est une démarche qui est vraiment, vraiment particulière et qui n'est pas forcément évidente à faire passer auprès d'un public très large. Mais en tout cas, nous, on aime beaucoup ce que vous faites, monsieur. Donc, voilà. J'ai envie de poser une toute première question, puis après de vous lâcher un petit peu. Être un petit éditeur aujourd'hui, est-ce que c'est compliqué? C'est la question simple à 2 balles.
Être unijambiste dans un fauteuil roulant sans roue, est-ce que c'est compliqué?
Pas mieux.
Merci pour avoir cassé le débat tout de suite. Tu vois,
pareil que les copains, nous, vu qu'on est en association et qu'on a chacun un travail à côté, on fait ça plus pour le plaisir. Ça se voit par rapport au nombre de livres qu'on sort. Ça fait 12 ans qu'on existe et on a sorti 10 livres. Donc forcément, pour un éditeur, ça serait carrément pas viable si on voulait vivre comme ça.
Bon, sauf à 200 000.
À 200 000 euros le livre?
Non, à 200 000 de vente.
Ah oui, bah, mais vu que c'est un petit tirage. 200 000 euros le livre, c'est bien.
Donc, vous êtes des petits opérateurs sur un monde... tout le monde dit que le monde du livre... flageole, etc. Flageoler sur une seule jambe, ça doit, c'est cohérent quelque part. En fait, qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à accéder, à vous faire reconnaître un public plus large?
Alors, je pense que sur la table ronde, ce qu'il faut distinguer, on a 3 modes opératoires économiques différents. Nous, on est les gros des petits. Oui. Puisque, en fait, nous sommes diffusés, distribués, donc nous avons un prestataire prestataire qui s'appelle Harmonia Mundi, qui nous diffuse dans 600 librairies en France, en Navarre, et en Belgique et en Suisse. Donc il est évident que, je ne dis pas ça du tout pour dire qu'on est les plus gros, je dis juste que du coup, ça entraîne.
C'est vrai.
comme le patron. Et non, mais ça entraîne nécessairement dans la production, c'est-à-dire dans le rythme de la production, dans les choix éditoriaux, ce système de commercialisation a forcément des impacts. En gros, nous ne publions pas tout à fait les mêmes choses que quand on diffusait et on distribuait nous-mêmes nos livres ou qu'on les vendait juste en salon. Donc voilà. Nous, on est sur une phase qui s'agrandit petit à petit. L'histoire est longue, hein, mais ça fait 17 ans, la maison d'édition a 10 ans. Et ça fait
12, on a commencé ensemble.
Ouais, 12. Bref, pardon. C'est un temps longtemps. Mais véritablement, on est dans ce système de diffusion et de distribution que depuis 5 ans. D'accord, et ça fait 3 ans véritablement qu'on fait des rendez-vous. Donc on est en train de prendre au fur et à mesure, on est en train de réapprendre aussi notre métier, on fait des choses différentes, des choix différents. On a une production en termes de nombre de livres qui est différente. J'ai pas de difficultés particulières autres qu'économiques. Donc le système de la librairie est un système qui est assez simple. Si vous êtes tous à peu près au jus, le libraire commande 10 livres, il vous en paye 10, il a entre 3 mois, et 1 an et demi pour se faire rembourser. Donc mon problème, c'est quand il vient me voir en disant je t'avais pris 10, mais je veux t'en rendre 5, il faut rembourser 5. Évidemment, le chèque des 10, je l'ai pris, j'ai utilisé. Voilà, j'ai déjà fait des crédits dessus. Enfin, voilà. Donc, ma difficulté aujourd'hui, c'est plus une difficulté économique de dire ok, comment est-ce que je fais pour que les libraires ne renvoient pas trop de livres, pour qu'ils en commandent assez pour que tout le monde puisse vivre. Et puisque cette boîte désormais a 3 salariés, comment je fais pour qu'on fasse assez pour payer les 3 salariés. Voilà. Je n'ai pas de difficulté structurelle. Tu vois ce que je veux dire? Après, en plus, je ne m'auto-flagelle pas. J'aimerais que les libraires, les médias et que les médiathèques et que le monde entier nous trouvent absolument géniaux et nous connaissent. Ce n'est pas encore le cas. Mais on y travaille.
Je pense que ça démarre quand même pas mal. Là.
Voilà. En sachant qu'on n'a pas ça a bien démarré. Budget non plus pour faire de la com.
Non, on n'a pas de budget pour faire de la com. Hein. Donc voilà,
c'est rigolo. C'est vrai qu'Internet est bien important d'ailleurs.
Ah bah oui, Internet est essentiel, les réseaux sociaux sont essentiels, les salons, les rencontres, les blogueurs, tout est à notre niveau, tout est très important. Quoi.
C'est ça. Débit, toi, tu as assez...
Ah. Donc si je comprends bien, ouais. L'éditeur prend des risques.
Alors, l'éditeur, c'est lui qui choisit un manuscrit en disant, ce manuscrit, je l'aime tellement, je parie dessus, je mets un billet sur la table. Et je parie que je vais le faire lire au plus grand nombre et que le billet que j'ai mis, je vais le rembourser. Et même faire quelques bénéfices. Donc, c'est moche parce que là, on parle en termes financiers, mais dans l'industrie culturelle et une industrie aussi. Donc, mon rôle, c'est de dire, sur tel bouquin, je parie. Parce que je trouve assez bon, parce que ça rentre dans notre ligne, parce que je crois à son potentiel commercial. Si je fais un pari sur un livre qui n'a pas de potentiel commercial, j'en ai fait, on perd des trucs. Et on ne sert pas de l'auteur parce que l'auteur n'est pas content, parce qu'on n'a pas bien vendu. Donc mon job, c'est de faire des choix.
Et alors, je me permets de poser des questions. Non, pour devenir éditeur, quelle est la formation?
Alors, moi, j'ai fait un doc de biologie, par exemple.
J'ai un bac scientifique et j'ai une petite formation d'imprimeur.
Moi, j'ai mis en droit social, spécialisé en relations sociales en entreprise. Donc, vraiment.
Donc, la formation est compliquée.
Et puis, il y a les gens qui sont un peu plus sérieux que nous. Il y a des études d'édition, des masters métiers de l'édition. Vous en avez à Grenoble, vous en avez à La Roche-sur-Yon, vous en avez à Bordeaux, etc. Qui là spécialisent. Pour les étudiants, on les amène à travailler après dans le monde du livre, que ce soit attaché de presse, commercial, editing, marketing, etc.
Mais on ne peut pas dire qu'ils vont être éditeurs, ils vont être attachés à une maison d'édition, ils vont travailler éventuellement dans le meilleur des cas pour une maison d'édition, ils ne vont pas être éditeurs.
Alors, ça dépend, ils n'auront pas de maison d'édition, alors ils n'auront pas d'entreprise Alors, un éditeur chez un grand groupe, c'est quelqu'un qui va choisir un texte, le défendre auprès de sa direction, travailler avec l'auteur, ce qu'on fait, hein, c'est ce qu'on fait nous. La seule chose, c'est qu'il est déchargé de toutes les tâches, genre marketing, communication, diffusion auprès des libraires, rentabilité, discussion avec les blogueurs, etc. Il ne se concentre que sur le choix des textes et le travail des textes. C'est ça, la définition d'éditeur, elle est là. Nous, nous sommes éditeurs, mais en fait, nous sommes chefs de nos entreprises. D'accord ? Et évidemment, dans mon entreprise, je ne passe pas ma journée à lire. Je fais du marketing, du commercial.
C'est un dénicheur de talent, mais il a les budgets en conséquence. C'est-à-dire qu'on va, parce que si j'ai bien compris, vous, vous avez les budgets en conséquence des talents que vous avez trouvés. Vous trouvez un talent, vous misez dessus, parce que vous imaginez que ça va fonctionner. Donc du coup, vous engagez votre propre argent.
En termes de budget, alors oui, c'est notre propre argent. Excusez-moi,
non, mais vas-y. On a le temps.
On a une heure.
Mais donc il y a t'as deux postes principaux pour faire un livre, d'accord ? Il y a l'auteur avec son droit d'auteur et un système d'avaloir. En gros, commercialement, l'auteur touche un pourcentage sur les ventes. D'accord ? Chaque année, on arrête les comptes, on dit ben voilà, on en a vendu tant. Donc tu as 8, 10, 14%, on fait un produit en croix et on te doit tant. D'accord ? Comme l'auteur il paye aussi ses factures, on lui file un avaloir, une avance. C'est important dans ce qu'on a valoir en général. Cet avaloir, en fait, c'est notre premier poste de dépense, le livre. Le livre est constitué en termes d'investissement financier sur l'avaloir, sur mon imprimeur. Et puis sur l'illustrateur, le traducteur, etc. J'essaye de ne pas perdre. Donc, en gros, mon moyen n'est pas en fonction de l'auteur, ni même en fonction de mon moyen, est en fonction de mon moyen, de mes moyens. Si je vais voir, Franck Tigues, par exemple, sans doute va-t-il me réclamer un avaloir qui n'est pas dans mes moyens. Je te fais un exemple. Chez moi, j'ai du Georges Martin. D'accord ? Donc l'auteur du Trône de Fer. Il est évident que je ne peux pas payer ce que demande l'agent pour le Trône de Fer. Néanmoins, je peux payer l'agent pour les livres qui sont à côté du Trône de Fer, qui vend avec 2-0 de moins. Et quand il y a 2-0 de moins, ça rentre pour le coup dans mon budget. Donc c'est pas tout à fait en termes d'auteur. C'est t'investis en fonction de tes moyens, puis après tu vois aussi avec les auteurs comment.
Parce que quand on se place du côté de l'auteur, il nous dit on envoie nos manuscrits à l'éditeur et on attend une réponse.
Ça, c'est le premier point.
Et donc après, en fonction de quel auteur il est, s'il est connu ou non, il va s'adresser à telle ou telle maison d'édition.
C'est ça.
Si je saisis bien le propos. Hein.
Il y a deux types d'auteurs. Il y a les auteurs qui ne sont pas connus, qu'on envoie à tout le monde. Ça, c'est les manuscrits qu'on appelle les manuscrits non sollicités. En tant qu'actuSF, on en reçoit entre 400 et 500 par an. D'accord ? Il y a les auteurs qui sont connus, qui ont déjà publié et qu'on connaît. Soit ce sont des auteurs maison, soit ce sont des auteurs avec qui on a travaillé ou qui ont envie de travailler avec nous. Tout simplement. Et donc, notre production, si on a 10 000 livres par an, on va faire 5-6 français. Et sur les 5-6, il y a 4-5 auteurs qu'on connaît déjà. Et puis on aura deux étrangers et deux produits un peu spéciaux. Je ne sais pas si je suis clair, mais. Mais encore une fois, je ne paye pas Georges Martin. Enfin, je ne paye pas l'agent de Georges Martin comme j'ai dû payer l'agent de Georges Martin. Parce que l'agent de Georges Martin, il a compris. Le Trône de Fer, ça avait un gros potentiel commercial, c'était Gélu qui pouvait l'assurer financièrement, mais qu'en revanche, les recueils de nouvelles de Georges Martin, ça n'intéressera pas Gélu, et nous aurons chez nous le potentiel commercial de le faire. Il va le voir, et il ne demande pas le même chèque.
Mais Gélu n'a pas d'intérêt à prendre les à côté, parce que c'est
parce
pas
assez rentable pour eux. Voilà, parce que c'est pas assez rentable pour eux. Ça, c'est un cas.
Oui.
Voilà. Après, il y a des cas où on va faire un Pierre Bordage, par exemple. Pierre, il travaille en space opéra chez La Talente. Il travaille au Diable Vauvert pour tout ce qui est post-apo, un peu fantastique, etc. Il a un bouquin jeunesse. On se connaît depuis longtemps. Avec Pierre, ça fait longtemps qu'on sait bien. Et du coup, on s'est mis d'accord, c'est l'actuSF qui va le faire. Parce que ça ne rentre pas dans
dans la ligne de ces deux éditeurs, quoi. Mais Pierre est assez connu pour aller voir Nathan ou Gallimard Jeunesse. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément les moyens de nos éditeurs. Pierre, bah, on discute sur la valoir et évidemment, il ne demande pas même la valoir à moi qu'à Nathan Jeunesse.
J'ai toujours une question pour Jérôme. Il est vrai que la question est essentiellement financière, de toute façon, dans l'émission. Il faut quand même avoir de l'argent pour vivre. Hein. Et on a vu ces derniers temps pas mal de petits éditeurs SF fantastiques qui ont fait bruit les portes. Ça existe aussi dans le domaine de la littérature générale. Alors, l'idée, par exemple, chaque SF d'abord, c'est quoi? C'est de publier un certain nombre d'ouvrages sur une année et, ou de publier de plus en plus pour avoir un fonds de temps.
Les deux, mon capitaine. Donc, l'idée première, c'est de publier des bons livres. D'accord ? C'est que des coups de cœur, tout ça, machin, des livres en tout cas qui nous ont assez plu et auxquels on croit. Donc, ça, c'est le premier point. Ce qui est intéressant, c'est que tu construis une espèce de ligne éditoriale et parfois ça se fait par devers toi. Ça fait 10 ans qu'on fait de l'édition. Et c'est marrant, il y a 5-6 ans, Serge Lehmann s'arrête devant notre stand et il dit putain, il y a un truc qui se dégage. Voilà. Et effectivement, il a raison. Donc, il y a des thématiques que nous portons chez ActuSF par goût. Donc, j'aime pas beaucoup de voyages dans le temps. Donc, on a assez peu de voyages dans le temps, par exemple. C'est un exemple. Donc, l'idée, elle est d'asseoir la maison fine d'édition en termes de qualité, en termes de notoriété et en termes financiers. Pour ça, et puisqu'il y a un système commercial, il faut qu'on publie assez pour être présent régulièrement en librairie, qu'on soit assez bon pour qu'on limite les retours et que surtout on maximise les ventes. D'accord. Donc on est passé de 10 à 20 titres, aujourd'hui on en fait 24-25. Sans doute faudrait-il qu'on grossisse encore un tout petit peu. C'est des effets de seuil et des effets d'entraînement. Mais l'idée pour moi, elle est de pérenniser la maison. Et donc ça passe par une production de qualité régulière. Et puis parfois ça passe aussi par le nombre.
Et vous avez des représentants qui vont en librairie?
Alors, nous on est.
Si vous êtes présent en librairie,
je suis désolé, les gars.
Oh oui.
Je
t'écoute avec grande attention.
On est chez un diffuseur d'ici.
J'aurai des questions
après. Depuis longtemps. Je vais reprendre la main juste après.
Bah, vous laissez peut-être.
Si vous voulez changer de place.
Mais viens, viens.
Qu'est-ce que je veux? Nous, on est rentré chez Harmonia Mundi. Donc, Harmonia Mundi, c'est ceux qui diffusent et qui distribuent, c'est-à-dire qui commercialisent les livres auprès des librairies. Des moutons électriques et de Mnemos. D'accord, c'est eux qui ont lancé Bragelonne et ils ont eu pendant 20 ans la Talente. Donc c'est une maison édition, c'est une diffuseur-distributeur qui a 75 éditeurs, des gens très gros, des gens avec des gros succès, genre Finitude, qui viennent de sortir un bouquin à plus de 70 000 exemplaires, vraiment. Et puis des éditeurs qui publient 4 livres par an. Quoi. Donc nous, on est dans les plus gros toujours. Donc ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Pendant longtemps, c'est nous qui faisions la diffusion et encore avant la distribution. Mais pour passer un cap, puisque l'objectif d'ActuSF a toujours été un jour de pouvoir se professionnaliser, on est rentré chez eux. Et l'anecdote, c'est que je cherche un diffuseur-distributeur, j'envoie un mail à Harmonia Mundi et la patronne m'appelle, elle me dit ouais, c'est bien. Ouais. Nous, on comprenait, Brajon vient de nous quitter, hein, on a perdu 2 millions de chiffre d'affaires avec eux. La Talente vient de se barrer, on a perdu 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Alors, là, c'est la fantaisie. Je dis, bah, tant pis, donc je cherche ailleurs. Et 3 mois après, elle me rappelle en disant, ActuSF, j'aime bien ce que vous faites. Elle ne se souvenait pas qu'elle m'avait refusé 3 mois avant. Mais voilà, mais ça se passe bien, on a bouffé ensemble. Bien, c'est cool, quoi.
Alors justement, on vient d'évoquer, tu viens de dire diffusion et avant distribution. C'est là à Davy que je vais poser la question et on vient sur le dépôt imaginaire du coup.
La grève au dépôt imaginaire, c'est parfait.
Voilà. Distribution, diffusion, c'est quoi la différence?
Ah, alors la distribution et la diffusion. La diffusion, c'est tout l'axe commercial de la vente du livre, en tout cas de sa diffusion en librairie. La distribution, c'est toute la partie logistique. Le dépôt, la facturation, les retours, etc. Voilà, c'est en règle générale, aujourd'hui, distributeurs et diffuseurs sont souvent liés. D'un point de vue économique, c'est beaucoup plus pratique, puisque bah, effectivement, la partie commerciale, la facturation, les retours, tout est géré effectivement en interne sur une équipe à la fois de commerciaux.
vécu très différent de celui d'ActuSF.
On va dire.
Surtout récemment, j'allais dire.
On vit exactement ce que Jérôme a vécu, je pense.
Tu avais un distributeur diffuseur.
Oui.
Et tu n'en as plus.
Et je n'en ai plus. Pour X ou Y raison, mais on va passer les détails techniques et judiciaires. Mais effectivement, donc on a commencé avec rien. On a commencé effectivement juste avec l'idée de se dire qu'on allait produire du livre, qu'on allait publier de jolis textes, qu'on allait simplement travailler dans le milieu de l'édition. Moi, je viens de la BD. Hein. Donc c'est vrai que voilà, j'ai passé un certain temps dans la BD et le roman, j'aime ça. Et donc voilà, j'avais envie de transmettre comme ça un petit peu du roman, du texte via des objets libres. Donc on s'est d'abord lancé sur du numérique pour voir un peu s'il y avait quelque chose qui accrochait ou pas. A priori ça accrochait, donc on a petit à petit avancé dans le livre papier. On a d'abord fait du livre à la demande pour des raisons économiques, encore une fois, la trésorerie ne suivait pas forcément. Donc on a d'abord fait du livre à la demande. Puis petit à petit, quand on commence effectivement à prendre un peu de vent dans les voiles, on se rend vite compte que le livre à la demande devient beaucoup trop cher à l'unité du livre par rapport au nombre de livres qu'on vend. Et donc on commence à passer sur de la petite production, moyenne production. Là, on est sur des tirages aujourd'hui entre 500 et 1000 exemplaires sur la majorité de nos titres.
Et maintenant, la distribution-diffusion.
Et maintenant, la distribution-diffusion,
en
fait...
Deux là-bas.
Alors, on s'est retrouvé entre plusieurs éditeurs indépendants. Alors, il y a eu l'idée, effectivement, du dépôt imaginaire. Le dépôt imaginaire, c'est un collectif d'éditeurs dont Jérôme, avec ActuSF, fait partie. Manu Aubert, pour le collectif organique, fait partie également. Et puis, on a d'autres maisons d'édition. Armada, Le Chat Noir, Flamèche, enfin, bon, voilà. Dizaines de maisons d'édition qui sont présentes au sein de ce collectif.
Vous les trouverez aussi dans le hall à côté des Indels d'Imaginaire.
Voilà. Et l'idée, c'était de créer une structure en fait de promotion des auteurs et des illustrateurs des maisons d'édition des gens de l'imaginaire. Si possible, maisons d'édition indépendantes. Donc avec un lieu, avec pignon sur rue, une librairie, un système de regroupement de commandes, donc grosso modo de la distribution diffusion light. Pour les maisons d'édition qui n'avaient pas de distributeur-diffuseur, et puis, un lieu d'événementiel, des focus sur des maisons d'édition, des séances de dédicaces, des lectures nocturnes, enfin voilà, on essaye de faire vivre le lieu de façon différente, des expositions. Là en ce moment c'est l'exposition du collectif organique par exemple, qui a lieu. La prochaine, on espère, Zariel, avec une opération spéciale avec Jérôme. Mais ça, on vous reparlera, vous n'aurez qu'à suivre le Facebook du dépôt imaginaire. Et donc, on a effectivement créé ce lieu avec un système de regroupement de commandes, justement pour permettre aux petites maisons, toutes petites maisons d'édition, Peuple de Mus, c'est une toute petite maison d'édition. Hein. On va, faut garder les pieds sur terre. On n'est pas une petite maison d'édition, on est une toute petite maison d'édition.
Vous êtes à quoi, 8, 10 titres dans
l'année ? Entre 8 et 10 titres dans l'année. Et on n'a pas de salariés. Donc, il faut garder les pieds sur terre. On est une toute petite maison d'édition.
Et vous en vivez ?
Non. Pourquoi c'est important ?
Peut-être pas.
Non. Enfin, en tout cas, évidemment, j'avais un métier qui me permettait de gagner très très bien ma vie avant de devenir éditeur. J'avais forcément de l'argent de côté. Et cet argent me sert aujourd'hui à me faire vivre pour faire ce que j'ai envie de faire. Avec plein d'erreurs, hein. Et sans doute que si j'avais fait un master édition, je n'aurais pas fait ces erreurs-là. J'ai fait un nombre d'erreurs incalculables de communication, de mauvais choix éditoriaux, de mauvais choix de distributeurs-diffuseurs.
Tu verras en fait après.
Mais oui, mais ça j'en doute pas. Se planter, c'est pas grave. Reconnaître ses erreurs, c'est mieux. Et puis surtout, les analyser et avancer et continuer à faire ce qu'on a envie de faire. Moi, aujourd'hui, on a une belle production, je trouve. On essaye de faire de beaux objets et finalement, c'est tout ce qui peu importe. C'est découvrir de jeunes auteurs, les faire travailler avec nous, travailler avec eux sur de beaux textes et puis essayer de les mettre aussi bien en valeur qu'ils le méritent. Voilà, et petit à petit, on essaye de passer en librairie. On vient de passer un accord avec les librairies de Citre. On est en train de passer l'accord avec les librairies Cultura. On va faire de l'événementiel avec De Citre, avec une web émission qui sera enregistrée deuxième quinzaine de mai et diffusée tout le mois de juin dans toutes les librairies De Citre et sur YouTube, et qui sera le pilote, et avec une émission plus régulière, un 52 minutes, une émission plus régulière à partir d'octobre sur les littératures de l'imaginaire. C'est des choses qu'on travaille comme ça, en proposant effectivement aux librairies, comme on est tout petit, plutôt que de les forcer, entre guillemets, à acheter, comme disait Jérôme, effectivement, faire de l'achat de tant de titres qu'on a à notre catalogue, c'est plutôt de leur proposer de l'événementiel et travailler autour de l'événementiel la vente des bouquins. Voilà. Et on essaye comme ça de créer des petits événements pour... Mais d'ailleurs, ce que tu faisais à Chambéry, de mémoire, hein, ce que tu fais encore à Paris.
Je suis arrivé à Chambéry, j'ai passé la règle de Citre.
Et Manu, vous avez quoi? Deux titres par an, les bonnes années?
Alors, je crois qu'on a fait deux titres la première année. Donc là, ça fait 2 ans qu'on existe, on a 10 titres. Donc on est tout petit. Mais on a un produit qui est un peu hybride, en fait. C'est comme disait Fred tout à l'heure, en fait on essaye de faire des mariages entre des plasticiens et des auteurs, ce qui n'est pas forcément évident. Donc en fait, à la base, on est un collectif de 6 personnes. Juste pour la petite histoire, mais super organique, en fait, c'est un label de musique électronique. Avant. Et on s'est planté, on s'est fait lâcher par un diffuseur. Et ça fait plein de cartons de disques dans la maison et tout. Et on était 6 amis. Et dans ces 6 amis, il y avait des graphistes, il y avait des peintres, il y avait des cams. Et on s'est dit, on va faire autre chose, maintenant on va tenter le début, donc on s'est dit, on va tenter la maison d'édition, sans avoir fait de formation d'éditeur, ce qui fait que nous aussi on a fait toutes les boulettes possibles et imaginables. Et le but de la collection, c'était, vu qu'on était tous super friands d'art plastique, on s'était dit, ça serait sympa de lier nos passions, l'art, donc que ce soit des sculptures, des peintures, des photographies, des infographistes, et puis de faire travailler un auteur à partir des travaux du plasticien pour écrire une nouvelle. Et donc, au début, ça a été vraiment en interne avec les 6 membres du collectif. Et puis, à partir du 6e, on est Valin Damasio qui nous a rencontrés sur Lyon, qui avait flashé sur l'idée de la collection. Et on a commencé à sortir du collectif en disant Valin Damasio, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et donc, par la suite, on a eu, vu que l'ICAM a été chez Grouvent, un petit peu chez QSF au début. On était beaucoup sur les salons de l'imaginaire, donc on a fait énormément de rencontres. Après, on a eu Karim Berouka, avant avec QSF. Je tiens à le préciser. Qui a travaillé sur les peintures de Bruno. Et puis progressivement, on a eu aussi du Lélé, qui était chez QSF.
Mais avant
quoi?
Voilà.
Ça s'équilibre.
Et pour finir avec Pierre Lordage, qui a travaillé sur les sculptures de Laura Bisset. Voilà,
c'est un produit difficile à placer.
C'est un produit hybride, oui, donc c'est assez compliqué. Pour l'instant, on n'a pas. On est simplement, en fait, vous pouvez trouver nos productions sur les salons. On crée aussi des événements avec le monde du collectif. En fait, on organise dans des galeries d'art des expositions communes, donc on en profite pour vendre un petit peu les livres. Les plasticiens qui travaillent avec nous font des expos régulièrement, donc on profite aussi pour montrer la collection. Et on trouve essentiellement sur le festival et au dépôt imaginaire pour les Lyonnais.
Et quelque chose que vous avez dit tous les trois, vous avez la passion de faire de beaux livres. Vous l'avez dit tous les trois, avec à peu près les mêmes mots. Est-ce que c'est un handicap de vouloir faire des beaux livres par rapport à un circuit commercial qui n'est pas forcément dans cette démarche-là?
Pour les librairies, non, au contraire.
Ouais.
Si je veux parler vulgairement, le livre est un produit. Mmh. Et quand je suis derrière une table de salon, c'est facile. Quand mon livre il est entre Marc Lévy et Stephen King, c'est plus dur. On est dans une librairie où je ne suis pas là. Il faut que mon livre soit objet de désir. Donc pour être objet de désir, il faut qu'on travaille aussi bien le contenu que le contenu. Et évidemment, voilà. Et puis c'est un plaisir. Donc alors, plus le livre est beau et plus il est cher à faire. Notre imprimeur nous demande des sous, en plus, évidemment. Mais au final, on s'y retrouve. Donc, après, c'est des choix. Ce ne sont que des choix. Donc il y a des livres où on sait très bien que il n'y a pas forcément un gros potentiel et qu'il vaut mieux essayer de réduire au maximum les coûts si on veut leur donner une chance commercialement parlant. Il y a des livres où on se dit là on peut y aller. Il y a des livres où on se dit il faut vraiment qu'il soit super beau parce que ça lui donnera des chances supplémentaires.
C'est une question d'équilibre.
C'est une question d'équilibre, c'est une question de sens aussi. Je ne vais pas faire forcément un cartonnet avec jaquette pour un space opéra, ça dépend du livre, ça dépend du contenu. Il y a des choses que je peux plus réserver à certains livres que d'autres. Donc ça implique le choix des artistes pour la couverture et ça implique la fabrication. Et les formats et tout ça.
Pour rebondir sur les beaux livres, oui. Pour avoir travaillé longtemps en librairie et être aujourd'hui responsable de médiathèque, pour les gens qui ont développé un fonds SF à
Profond. Rappelle-moi, tu es où, Eric ?
Près de Saint-Étienne, à Réunion. Et des gens qui ne connaissent pas la SF, le fantastique littérature imaginaire, qui découvrent ce bouquin, qui sont présentés de face, ils sont attirés par ces volumes.
Bien sûr.
C'est la SF, voilà, Dormeur, c'est une petite
Dormeur.
Et puis bon, n'importe quelle sorte, même ceux de chez Brajol, nous avons un autre niveau, les collections Steampunk, elles attirent cette clientèle. Donc il y a quand même un effet visuel qui est important.
Bien sûr. C'était une étude de la FNAC qui remonte à il y a une quinzaine d'années. Et c'est, voilà. Il y a demain une table ronde, je ne dis pas ça parce que je l'arbitre, ouais. Sur justement le trait d'union entre l'auteur et le lecteur, c'est l'illustrateur, et je m'engage à y passer. J'ai été libraire aussi, parce qu'on est dans les confidences. Je pense que l'un des problèmes aussi, c'est de face, effectivement, ça attire. Mais comment est-ce qu'on peut obtenir cette place en facing?
Voilà. Ça, c'est la place du facing quand même, parce que c'est ça qui est le plus difficile aujourd'hui.
Se retrouver en librairie, c'est déjà difficile, mais alors se retrouver sur la table, sur l'îlot central, ou voir son livre, voilà, sur le petit présentoir qui apparaît, alors là c'est excessivement compliqué. On a du bol là aujourd'hui avec deux titres d'avoir eu. Alors l'accord avec deux titres s'est fait au moment où on sortait Peter Pan par exemple. Et c'est vrai que Jérôme, qui est libraire du site Confluence, l'a lu très rapidement. On a fait immédiatement une critique et on a été placé en facing quasiment dans tous les deux sites où Michael Roth doit passer. Bon, c'est sûr que voilà, c'est une première, ça fait super plaisir. Non, c'est une deuxième, parce qu'en fait, Cultura, dans toute la région de Bretagne, pour les temps assassins, avait fait des remplis ses rayons de temps assassins. C'était génial. Il nous avait envoyé des photos. C'était génial. Donc voilà. Mais c'est excessivement compliqué pour un petit éditeur déjà prendre contact avec les libraires et autres. Et je voulais rebondir sur ce que disait Jérôme tout à l'heure sur les beaux livres. C'est vrai que quand on commence, nos livres ils sont moches. Enfin moi en tout cas, mes livres ils étaient moches. Voilà. J'en ai vu. J'en ai vu des bouquins.
Quel rose de Sonia Kelmer.
Oui, l'illusion du contrôle. Mais moi, je suis le seul à aimer cette couverture. Ça fait partie des erreurs d'éditeur. C'est comme il y a certains textes, t'es le seul à les trouver.
Absolument.
Géniaux, tu dis ça. Faut absolument les éditer, c'est génial. Et en fait, t'es le seul à l'avoir trouvé génial ce texte. Et personne, tout le monde trouve ça nul. Et voilà, et donc t'as sorti un texte que tu croyais génial. Et cette couverture, je l'adore. Tout le monde la déteste. Moi, je l'adore.
Pardon,
oui, je sais.
Non, mais elle est. Non.
Elle est rose.
Elle est rose.
Mais voilà, les débuts, effectivement, sont très compliqués parce que ça coûte cher de faire un bon bouquin. Donc il faut que vous ayez une trésorerie derrière. C'est vrai qu'on ramène un peu à l'argent le métier de l'éditeur, mais ça reste quand même notre métier. Ça veut dire qu'effectivement, on parie de l'argent, comme le disait Jérôme, et on espère quand même soit arriver au moins à l'équilibre. Au mieux quand même en tirer un petit bénéfice pour pouvoir attaquer après derrière sur de nouvelles créations.
De toute façon, vous avez au minimum la contrainte de payer l'imprimeur déjà.
Ah bah ça, de toute façon. Voilà. L'imprimeur étant déjà une bonne partie du bouquin.
Pour vous donner une idée, 1000 exemplaires d'une petite bulle, ça nous coûte entre 3,8 et 4,8.
Et vous les passez en combien de temps, ces 1000 exemplaires?
On a juste réédité le deuxième qui est sorti il y a 12 ans. Autrement, on a encore des petits stocks dans chaque maison du collectif. Après, on fait très peu de salons, on est peu diffusé.
J'ai sur les stocks, c'est chiant.
Ouais, c'est fou.
Oh, mais c'est pas
ça prend de la place.
Grande cave.
C'est ça. Grande bureau.
Donc, faire votre place au milieu de tout ça.
Non.
Non.
Oh, si.
Oui. Monsieur, Charmonia Mundi, tout va bien. Non, mais tu me dis
Charmonia, c'est pas ça. C'est
t'as commencé avec une jambe dans un fauteuil roulant, donc excuse-moi, mais.
Trois, monsieur, trois librairies. Et tous dans le même arrondissement.
Je vais préciser ma question, en fait.
Ouais, c'est ça.
On sait qu'il y a des grands opérateurs en SF. Il y a un énorme afflux d'auteurs étrangers, anglo-américains, on va dire, avec des, comme dans la littérature générale, du mainstream énorme. Vendre auprès d'un diffuseur, j'imagine que ça doit pas être simple. Et négocier vos mètres linéaires en librairie.
Au début, c'était drôle, parce que nous, on faisait des recueils de nouvelles à pas cher, des petits formats. Donc, évidemment, tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, Harmonia Mundi nous a pris parce qu'on avait quand même réussi à dénicher George Martin, Robert Silverberg, quelques noms qui claquaient, quoi. Mais évidemment, la première année qu'on a continué à faire des recueils de nouvelles pas chères, j'ai pleuré ma race parce que, on avait des taux de retour absolument géniaux, quoi. Donc, il a fallu changer de modèle économique. C'est-à-dire que soit on allait dans le mur en disant, on meurt avec nos idées, c'est super. Soit on regardait et puis on se disait mais comment est-ce qu'on peut faire, et qu'il fallait passer au roman. Et puis il fallait aussi comprendre à un moment qu'il fallait qu'on s'autorise à passer au roman. Parce que de temps en temps, en tout cas mon problème à moi, c'est qu'en tant que petit, on se considère comme petit et on ne s'autorise pas à faire des choses que les autres font. Voilà, il fallait aussi qu'on se dise nous aussi on peut, après tout. Donc ça a mis, j'ai absolument oublié la question, mais j'ai jamais eu de problème. Donc Harmonia Mundi, je vous ai raconté l'anecdote, ils nous ont accueillis, c'est cool, ça se passe très bien avec eux. Comme on venait pas tout à fait du monde du livre, c'est-à-dire qu'on avait des rapports un peu différents des autres éditeurs, donc on s'est beaucoup engueulé. Il faut dire aussi les choses, mais on s'adore. Ça se passe bien. J'adore mon diffuseur-distributeur. La directrice commerciale me fait un massage dans le restaurant, c'était très bien.
Tu dis ça parce que tu es enregistré ou...
Non, ils le savent.
Je l'avais oublié, l'enregistreur.
pour l'anecdote, on sort un bouquin d'Ursula Le Guin, trois nouvelles. J'ai Thierry Augou, qui est le représentant Rhône-Alpes d'Harmonia Mundi, qui m'appelle. Je lui dis putain, c'est bien, mais t'es sûr qu'il faut que les publier dans cet ordre-là? C'est-à-dire que ces gens-là, pour partie, connaissent assez bien les littératures imaginaires, et on s'aime assez pour que lui prenne son téléphone et discute au bout de gras sur un sujet où il n'a pas son mot à dire, mais c'est pas grave. On en discute pendant un quart d'heure en disant, voilà, il me dit, moi je mettrais plutôt une nouvelle 3 en 1, etc. Je lui dis, non, il vaut mieux faire 1, 2, 3 pour telle ou telle raison. On a ce rapport d'ordre-là. Alors après, il y a des chiffres commerciaux, il y a des bilans, on sait combien on a vendu. Voilà, donc les premiers temps c'était difficile. Se faire une place dans le monde de l'imaginaire, alors moi j'ai pas trouvé ça difficile parce que nous on est nés dedans. Donc ça fait ActuSF, le site internet, à 17 ans. Ça fait 20 ans que j'ai fait mes premiers salons.
qu'on anime des tables rondes, qu'on fait des interviews, qu'on connaît un peu tout le monde. Donc, les choses se sont faites un peu naturellement et par devers nous. Hein. Je n'ai jamais eu de problème à dire, bah, un jour, bah, voilà, c'est une évidence. Quoi. Tu le fais, tu as 3 livres sur la table, puis à un moment, tu en as 40, et puis 5 ans après, tu es toujours là, et puis tu en as 120, et puis bah, tu fais partie du paysage. Quoi. Donc, j'espère qu'on fera partie le plus longtemps possible. Donc moi, j'ai vraiment pas de problème.
J'étais plus spécifiquement le placement en librairie, se confronter à des monstres comme Brajlon.
Non, mais tu te confrontes mais pas, tu te confrontes à des libraires, c'est pas du tout la même chose. Notre problème, c'est la notoriété. D'accord. Donc, si on fait un état des lieux du marché, j'ai 600 points de vente. Sur les 600 points de vente, j'ai d'abord des Fnac, des Cultura, etc. Ce sont mes plus gros clients. J'ai 450 libraires indépendants. Sur les 450, j'en ai au mieux entre 30 et 50 qui suivent véritablement notre production. Donc, la librairie indépendante n'a pas une grosse part chez nous. Donc, j'ai 400 libraires qui ne suivent pas. Donc, j'ai 400 libraires à convaincre. Donc, mon problème, il n'est pas du tout marginal, il est de convaincre 400 libraires qui ne nous prennent pas, qui ne nous connaissent pas pour des raisons X ou Y, que ce qu'on fait, c'est bien et qu'ils vont en vendre et que du coup, ils vont développer leur chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'on a fait les indés, c'est pour ça qu'on mène tout un tas d'opérations. Donc, c'est compliqué parce qu'il y a un marché global de surproduction. Mmh. C'est une évidence. Après, ce qui est plus compliqué, c'est quels sont les moyens que tu mets en œuvre pour faire ce qu'on appelle la surdiffusion, c'est-à-dire promouvoir tes livres auprès des libraires. On a tout un tas de stratégies, de l'opération commerciale, d'opération de séduction. Voilà. Il faut que ce soit un objet de désir pour. On est des séducteurs, hein. Oui. Il faut séduire l'auteur, il faut séduire le libraire, séduire les lecteurs. Tourner parfois en film porno.
Vous avez des aides, des subventions, des choses comme ça, de temps en temps? La question, ça reste au 3.
De temps en temps,
oui. Alors, on est bien lotis en Rhône-Alpes.
On était.
Oui, on était, mais jusqu'ici, on était bien lotis. Oui. Puisque nous avons des subventions pour les salons, nous avons des subventions pour les livres. Donc, c'est plutôt cool. Et avec la VRAC, on a de temps en temps d'autres subventions. Bien.
Oui, même tout. Plutôt côté drac.
Vous n'avez jamais nous demandé?
C'est ça. Nous, on va peut-être y
pas
penser
encore,
on sait qu'elles existent. Voilà. Pour l'instant, on a toujours réussi à s'autofinancer. Donc,
après,
on n'en voit pas l'utilité.
Ouais,
non, mais vas-y.
Je voulais rebondir sur ce que disait Jérôme. C'est effectivement, notre problème, c'est pas Brajlon, c'est pas les grosses maisons. C'est effectivement de convaincre les libraires de nous faire rentrer dans leurs rayons. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier aussi dans l'histoire, c'est que les rayonnages des librairies ne sont pas extensibles. Et tant qu'on aura des stratégies d'assèchement du marché, alors, petit cours d'économie rapide, la stratégie d'assèchement du marché, c'est lorsque des grosses structures souhaitent, pour conserver leur monopole, inondent le marché d'un certain nombre de produits qu'elles fabriquent elles-mêmes, empêchant par là même les moyennes entreprises et petites entreprises de pouvoir placer leurs produits dans les mêmes enseignes que les gros. Cette stratégie elle a été utilisée dans la bande dessinée, c'est un secteur que je connais particulièrement bien pour pouvoir vous en parler, où effectivement les grosses maisons d'édition ont tué une bonne partie des moyens et petits éditeurs de la bande dessinée. Ils s'en sont mordus les doigts, c'est pour ça qu'aujourd'hui ils essayent de refaire justement tout le maillage à ce niveau-là, mais ça a quand même pris 10 ans. Dans le livre, on vit alors à peu près la même chose, effectivement, avec des stratégies très fortes d'office forcé, donc de vente forcée aux libraires d'un certain nombre de livres. Avec effectivement un certain nombre de produits qu'on met en avant, un nombre de productions absolument hallucinant. C'est 5000 livres qui sortent tout le mois, 5000 ISBN.
On est à 65000 nouveautés par mois.
Oui, voilà, c'est ça. Donc on est à 5. Voilà. Ouais,
Tout confondu.
5000 ISBN par an.
Jeunesse, voilà, pratique, poésie, tout ce que tu veux, est identique. 65000 ISBN nouveaux chaque année.
La rentrée littéraire, c'est 5600.
Oui, comment voulez-vous, avec, alors, sans parler 65 000 ISBN, vous êtes une librairie généraliste, donc imaginons vous faites tout, de la poésie, etc. 65 000 nouveautés, vous ne pouvez pas les absorber, personne ne peut absorber ça, aucun libraire ne peut le faire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi il a une boîte à faire tourner, lui aussi il a des salariés à payer. Donc qu'est-ce qu'il fait effectivement? Il va s'assurer un certain rendement d'achat de livres, de titres dont il est à peu près sûr qu'ils vont se vendre. Et quand effectivement il y a des grandes entreprises de l'édition qui ont des moyens de faire passer les bouquins dans tous les journaux nationaux, dans toutes les radios, dans tous les médias télévisés, c'est beaucoup plus facile de vendre un Marc Lévy que de vendre un Emmanuel Quentin. Voilà. Et pourtant, Emmanuel Quentin, je vous assure que côté littérature, c'est bien meilleur que Marc Lévy.
Oui, c'est pas faux. Pardon. Et par contre, je pense qu'on peut le vendre, moyennant 50 euros, pour faire. Mais c'est. Il est en bas, il faudra lui poser la question.
Oui, il faudra lui poser la question, oui.
Mais c'est à nous de bosser. Hein. Puis parfois, il y a des livres qui sont pas formés pour le genre. Donc, souvent, c'est avec le rayon polar, on se plus en polar, donc on imagine la santé. Donc, c'est à nous de montrer par celui-là.
Il y a le problème aussi. Pardon. Des éditeurs de littérature générale qui publient des bouquins de SF, fantastique, Sigma, Actes Sud, et qui. Non, mais après, les gens n'arrivent plus à différencier les éditeurs qui sont vraiment science-fiction, on va dire, enfin, littérature de machin que vous, et puis nous qui sommes. Le grand prix de l'imaginaire l'année dernière, c'est chez Sigma.
Mais est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave?
Non, c'est pas grave, mais pour vous, est-ce que c'est pour vous?
C'est grave sans elle. Si tu veux, bon, tout le monde a le droit de faire de l'imaginaire.
Ouais.
D'accord. Nous souffrons de temps en temps, nous faisons les caliméros en littérature imaginaire en disant on est des petits. Très bien. Quelque part, que Zulma fasse un livre de SF, c'est aussi une légitimation quelque part. La littérature générale qui s'empare de la science-fiction ou de la fantasy, comme Catherine Pancol, comme voilà, montre que de facto notre littérature n'est pas. Ouais, mais. Oui, bah oui, Globalia de Ruffin, c'est pas bon, mais il n'empêche que c'est du post-apo et c'est de la SF. Ce qui veut bien dire que nos thématiques, elles ne sont. On n'est pas simplement un carré de grenière survivant en disant la SF c'est bien, ça peut s'exporter. Quoi. En tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que nos rayons en librairie ont muté. Si tu vas à la FNAC et tu regardes le rayon imaginaire, il a muté ces dernières années. Avec de nouveaux acteurs qui sont arrivés et des acteurs, tu as raison, Actes Sud, Super 8 par exemple. Ou de temps en temps, Zulma. C'est-à-dire que la question, c'est plus simplement la dizaine de gros éditeurs qui existent et les petits. C'est beaucoup plus flou. Tu as toute la question de la littérature young adulte, qui ne va pas tout à fait dans le Hunger Games et compagnie, qui ne va pas forcément dans la rayon jeunesse, et qui parfois se retrouve dans l'imaginaire aussi. Et puis du coup, qui crée une espèce de changement de paradoxe, pas paradoxe,
paradigme.
Non. En gros, il y a des gens qui peuvent avoir lu de la SF pendant 10 ans et qui n'ont pas lu Bradbury. Mais en même temps, je ne leur en veux pas, moi, j'ai pas lu Hunger Games. Mais on a le même genre, on a le même référentiel, on n'a pas du tout les mêmes genres. Donc le rayon, il est beaucoup plus. Il est beaucoup plus mouvant que ça. C'est vraiment un rayon dans lequel désormais d'autres éditeurs arrivent, d'autres tranches d'âge de temps en temps, et ça, c'est. C'est lié essentiellement à la personne ressource qui est le libraire du rayon, donc la libraire. C'est elle qu'il faut comprendre.
Je crois qu'il y a quelque chose aussi là-dessus, c'est que la spécification des genres, elle a aussi une histoire qui est une histoire de professionnel en fait. C'est comment on a effectivement, particulièrement sur les standards internationaux, comment on a mis dans des cases un certain nombre de littérature, mais simplement pour du rangement, pour de l'intelligence, de se servir effectivement des ISBN, etc. Enfin, tout ça permettait effectivement un meilleur rangement des livres. ISBN pour tout ce qui concernait les éditeurs, et puis ensuite, effectivement, dans les bibliothèques, il y a un certain nombre de critères de rangement, je ne vais pas vous l'apprendre, hein, avec des codifications particulières, pour tout ce qui concerne les livres. Donc tout ça, c'était une logique professionnelle. Le seul problème, c'est que je pense que, pas nous ici, mais petit à petit, ce sont des informations qui sont passées dans le grand public, qu'on a vu effectivement.
je veux dire, aujourd'hui, personne n'irait ranger Voyage aux états de la Lune et du Soleil en littérature fantastique, enfin en littérature de l'imaginaire. Personne n'irait ranger un certain nombre de livres de Maupassant. Personne n'irait ranger dans la littérature de l'imaginaire. Mais vous êtes des exceptions et vous le savez là-dessus. Ça veut dire que ça ne se fait pas. Et pourtant, c'est de la littérature de l'imaginaire. Et il y a toujours eu de la littérature de l'imaginaire. On remonte à Rabelais, Cyrano de Bergerac, Voyage au-delà de la Nuit du Soleil, premier roman de science-fiction sans doute édité en Europe.
69-63.
C'est absolument énorme. Absolument énorme. Et on ne faisait pas la distinction entre les pièces de théâtre de Cyrano de Bergerac et son écrit Voyage aux états de la Lune et du Soleil. C'était du Cyrano de Bergerac, comme on ne faisait pas de distinction avec ses pamphlets ou d'autres choses. Pareil pour Maupassant, qu'il écrive de la blanche, entre guillemets, ou du fantastique, tout le monde s'en foutait, c'était du Maupassant. Et finalement, est-ce que c'est pas ça qui est important? Ça veut dire qu'effectivement, qu'Actes Sud fasse de l'ASF ou que nous, on se mette à faire de la blanche, est-ce que ce qui n'est pas important, c'est plutôt qu'on fasse de la bonne littérature ou de la littérature qui accroche nos lecteurs et qui leur fasse plaisir? Moi, je suis plutôt pour cette solution-là, c'est de dire, peu importe qui fait quoi, peu importe qu'on soit spécialisé ou non, peu importe qu'on soit généraliste ou pas, l'important, finalement, c'est qu'on fasse de la littérature et qu'on propose des nouveaux textes, des nouveaux auteurs, des nouvelles visions, de nouveaux mondes à explorer.
Je sors un petit peu de mon rôle. Tu veux ajouter quelque chose, Manu?
Non.
Sortir un petit peu de mon rôle de modératrice pour ajouter une petite note là-dessus. En 2006, je crois, il était en Chine à l'époque, en voyage d'un ou deux mois, Neil Gaiman disait qu'il était persuadé que ces clivages, alors, c'est un anglo-saxon, les clivages sont moins évidents de l'autre côté de la Manche ou de l'Atlantique, mais que ces clivages étaient appelés à disparaître pour revenir simplement à l'expression de la simple littérature. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut commencer à penser les choses.
Je suis pas sûr.
T'es pas sûr?
En fait...
Après, Gaiman, il est inclassable.
Non, mais c'est pas ça, c'est que... Très clairement, je fais de l'imaginaire parce que je suis un lecteur, je suis un passionné, je lis ça depuis que je suis en culotte courte. Donc je fais naturellement de la fantaisie, du fantastique, de la science-fiction. Au final, c'est de la littérature. C'est jamais qu'une histoire. Tout est littérature. Et je dirais même, c'est pas moi qui le dis, hein, je sais plus, la littérature n'est qu'une branche de la science-fiction. C'est qu'un univers, quoi. C'est un sous-genre.
C'est
pour moi, la question ne se pose pas à ça, c'est la question que tu poses, c'est la question structurelle du marché. Donc, en gros, par exemple, je ne le souhaite pas, mais je ne sortirai non plus jamais du rayon science-fiction en m'appelant un USF. D'accord ?
Ça aide pas.
Quand je fais Aventure à Guédelon, qui est un bouquin jeunesse, comme l'acheteur en librairie n'est pas forcément celui qui ouvre le carton, c'est un bouquin de 5 euros avec illustration jeunesse, je me retrouve en rayon imaginaire parce qu'il y a marqué avec USF dessus. Bon, c'est pas grave. Il faut comprendre la structure. Si je veux sortir du rayon jeunesse, je fais un label qui s'appelle Maos avec les invités de l'imaginaire, c'est plus avec USF, c'est Maos. Donc je suis en rayon jeunesse à ce moment-là. On joue avec les structures. C'est pour ça que tout ça n'est pas si grave, il faut bien comprendre le marché, et puis après il faut en tirer les conséquences. Quoi. C'est ce qu'on peut faire.
Vous avez développé des documentaires aussi?
Non, là on a fait une collection poche partagée avec les Indés, donc Helios. On fait une collection jeunesse avec les Indés qui s'appelle Laos. Donc déjà on va travailler ces trois axes, parce qu'il y a toujours l'imaginaire. Après j'ai quelques idées. Mais j'en fais d'autres. Voilà. Mais tu vois, par exemple, pour parler de littérature, je suis à Chambéry, il y a le festival du premier roman. Il n'y a pas 25 éditeurs à Chambéry. Il se trouve qu'en plus on connaît bien la directrice et qu'on boit des coups ensemble. On va faire le livre des 30 ans du festival du premier roman, qui n'a jamais de science-fiction dans sa... Mais c'est marrant, c'est un éditeur de science-fiction qui fait un livre anniversaire.
Et vous prenez la rentrée littéraire, à part quand c'est chez Zulma, etc., il n'y a jamais un bouquin de SF.
Il y a eu Dominique
Douai
dans
l'Ibrairie
il y a quelques temps.
Oui, mais c'est Dominique, c'est
Mais ça, c'est les barrières.
C'est ça. Au point que le polar fait une rentrée séparée, en fait.
Ouais,
aussi, maintenant,
Mais deux titres, par exemple, me disent « Ouais, super, on a trois catalogues, dont un catalogue rentrée. » Eh, ça tombe bien, on fait une rentrée de fantasy, quoi. C'est que de la blanche. Je dis, c'est pas grave. Vous n'avez pas la couverture, vous mentez, quoi. Harmonia Mundi fait une réunion devant 100 libraires sur la rentrée littéraire de leurs éditeurs. Je leur dis, mais appelez-moi. On ne leur dit pas que c'est de la SF. Je viens présenter mon livre comme les autres éditeurs. Que puic, et hop. Il faut aussi qu'on arrive à convaincre un certain nombre d'acteurs que, on peut présenter des livres et que ça se rapproche de la blanche. C'est pas très grave.
Et c'est pas parce que c'est étiqueté SF Fantasy ou
ça,
que c'est pas la bonne littérature, que c'est pas bien écrit, que c'est pas.
Oui, justement, je voulais aussi voir par rapport à Internet le positionnement que les éditeurs ont et quelle place est en train de prendre Internet par rapport à l'édition papier, que ce soit sur tablette ou que ce soit simplement la promotion d'un auteur sur Internet par sa propre édition.
Ta question est vaste.
Vous avez 4 heures.
Alors, tu as plusieurs positionnements. On va faire 1, 2, 3. D'accord ? On va faire 4. Internet, c'est promotion du livre, visibilité du livre, vente par correspondance, vente numérique, de livres numériques, et tu as raison, promotion de l'auteur. D'accord ? À ces 4 questions, nous n'aurons pas forcément la même réponse en fonction de notre taille et en fonction des grands groupes. Les grands groupes vont souvent faire de la promotion de leurs livres. Ils ont tous des sites internet. Sur des gros auteurs, moche, c'est compliqué. Sur des gros auteurs, ils vont avoir de la promotion sur internet. D'accord ? Il se trouve que je travaille pour une agence de marketing culturel dédiée aux livres que j'ai créé. Donc je travaille avec Gallimard, etc. En revanche, ils ne feront pas de VPC, sauf via Amazon.
VPC,
vente par correspondance.
Et ils ne feront pas de numérique en direct eux-mêmes. D'accord ? Sur les 4 questions, nous, petits éditeurs, on va évidemment essayer d'être sur tous les fronts parce qu'il y a là une représentation à travailler. Donc, nous faisons de la vente par correspondance, nous faisons de la vente numérique sur notre site. Notre site est un site marchand, ce qui n'est pas le cas des éditions Jules. Pour répondre sur le livre numérique, c'est 2% du chiffre d'affaires annuel de l'édition.
Il prend pas de place.
Non. Mais il prend pas de place pour deux raisons. Il prend pas de place parce que nous avons encore un attachement au livre papier qui est réel. Il ne prend pas de place parce que les grands acteurs du marché ne jouent pas le jeu. En gros, nous avons souvent sur les grands acteurs, que sont Gallimard et Co., des livres numériques qui sont quasiment au même prix du livre papier et avec des DRM.
D'accord ? Et avec
des DRM, donc des choses qui des un petit logiciel qui t'empêche de le copier et de le passer à tes voisins, quoi. Mais qui pose des problèmes de format en fonction de ta liseuse.
Y compris à le léguer à tes enfants.
Voilà. Oui, c'est une vraie questionnerie.
Donc, en gros,
on achète le livre, on ne peut pas le lire.
Voilà. En gros, le truc, c'est que.
Tu changes de tablette, tu ne peux pas le récupérer sur ta
liseuse. Voilà, c'est complètement neuf. Donc, si ton grand format il est au même prix en numérique qu'en papier. À moins d'avoir véritablement que des envies numériques, tu vas l'acheter en papier. Parce qu'on aime tous l'objet. En revanche, très clairement dans les études, par exemple, c'est romance, polar, science-fiction qui arrivent en tête des genres les plus lus en numérique. Pourquoi ? Parce que les éditeurs de ces genres cassent les prix. Nos livres sont 30 à 50% du prix papier, font des opérations promo, donc deviennent de rendre plus désirable le livre numérique. Faisons la preuve par la même que ça ne nuit pas à nos ventes.
Oui, ça ne nuit pas à nos ventes. Alors pourquoi les gros groupes
Eh bien parce que tu vas comprendre, entre un livre qui coûte 18 euros et un livre qui coûte 3 euros en numérique, qu'est-ce qui vaut mieux vendre si tu es du côté du marchand ?
Ça dépend, ils font plus vivre les libraires, donc ils y gagnent aussi en diffusion, en complications.
Du tout, au contraire. Il y a 2 ans dans cette salle, Yael expliquait le système de l'aller-retour en librairie. Prenons le cas, à l'époque, tu te rappelles, il disait Gallimarion. Prenons le cas Gallimarion. Ils ont une société de distribution. Le jeu est très simple. Je répète exactement autant que possible ce que je me rappelle de ce qu'il a dit. Le jeu est très simple. Tu vas imprimer un bouquin, tu sais très bien que tu ne vendras pas les 8000 exemplaires que tu as imprimés. Tu vas inonder, et là on est sur ce que tu disais sur l'assèchement. Tu inondes la librairie en disant, de toute façon, sinon tu n'auras pas les deux autres que je sais qui sont vachement bien et que tu les vendras. Et je te les donnerai, ou je t'en donnerai moins. Voilà. Donc le libraire va payer l'aller du bouquin. Et quand ça ne s'est pas vendu, il paye le retour du bouquin. Et la marge est là.
Ah, parce qu'ils prennent malgré tout une marge là-dessus, c'est-à-dire qu'ils veulent bien reprendre, mais quand même, ça a un coût.
Tu fais évidemment, tu fais bien le système.
D'accord. Donc c'est le système qui est.
Et là, ça, avec le numérique, tu l'as pas.
Et puis encore un coup, je pense qu'il vaut mieux vendre 5000 bouquins à 18€ que 5000 bouquins à 3€. Donc. Il n'y a pas en France les conditions pour un développement du marché numérique. C'est pas grave, tant mieux, ça nous permet de l'occuper. Tant qu'ils ne sont pas là, on se dépatouille.
Ça veut dire que c'est pas un objet d'avenir.
Si, bien sûr.
Si, mais pas celui qu'on connaît. Sans doute pas celui qu'on connaît. Ça veut dire sur une évolution plus 1, plus 2 du livre numérique. Il y a déjà des réflexions d'ailleurs qui sont en cours là-dessus. Hein. Julien Simon chez Valrus a fait un très beau texte à ce sujet sur l'actualité. Lui pense que par exemple, on s'est trompé sur le livre numérique. Pas d'utiliser le livre numérique, mais on s'est trompé dans son format. Ça veut dire en voulant faire un livre homothétique, donc avec un système où on tourne des pages, où on a une jolie couverture qui s'affiche, etc., on tourne des pages. Il pense qu'effectivement nous nous sommes trompés puisque la nature même en fait de l'activité sur support tablette, ordinateur, etc., c'est le scrolling. C'est-à-dire on va utiliser les petits ascenseurs verticaux et horizontaux pour lire du texte. C'est ce dont on est habitué depuis qu'on est sur Word. On fait descendre l'ascenseur et donc il pense effectivement que c'est plutôt un modèle comme celui-ci qu'il faudrait penser pour le livre avec une espèce de streaming effectivement disponible, donc un achat et puis on peut lire, etc. Bon, voilà, ça pose de nombreuses questions, mais il faut tenter. Ça veut dire qu'on est aussi dans des systèmes d'expérimentation. Ça veut dire que je parle pour le peuple de Mu et je pense pour d'autres très petites maisons d'édition. Je crois que c'est nous on peut se permettre de tester ce genre de conneries en fait. Dire, ouais, allez, c'est bon, on laisse tomber pour faire un peu d'e-pub quand même, parce que bon, il faut quand même qu'il y ait un peu d'argent qui rentre. Mais on va tester des nouveaux modèles avec nos lecteurs. Tiens, vas-y, essaye ça, dis-nous ce que t'en penses. Tiens, viens, on va jouer avec les ascenseurs, etc. Enfin bon, bref. Nous, on va pouvoir le faire. On est d'ailleurs avec Valrus, on est en train de regarder effectivement quel modèle serait le plus. Quel codage on pourrait utiliser. Donc, ce serait sur une HTML5, avec le moins de CSS possible pour que ce soit lisible. De partout, en tout temps, en tout lieu, sur n'importe quel support, n'importe quel format, téléphone, etc. Enfin, bref.
Parce que ça, c'est possible.
Oui, c'est possible. L'HTML5 le permet, puisqu'aujourd'hui, toutes, hormis les liseuses qui n'ont pas de navigateur, tous les navigateurs aujourd'hui, sur n'importe quelle tablette, téléphone portable, ordinateur, lisent le HTML5. C'est un code mondial, le HTML5. Le CSS, de la même manière, on a énormément, il y a quand même un comité de suivi effectivement du code afin qu'il soit le plus propre possible pour être lisible de partout. On a quand même, il y a le W3C, donc l'institution effectivement, qui vérifie les codes. D'ailleurs, on peut envoyer nos EPUB. Moi, je fais régulièrement des tests d'envoi de mes EPUB sur le W3C pour voir où sont les erreurs les plus graves, parce qu'il y a toujours des erreurs sur un EPUB de toute façon. Hein, voilà. Mais au moins pouvoir réparer les plus graves, histoire que véritablement on puisse être lu sur un maximum de supports. Ah oui, parce qu'un EPUB, en fait, c'est des pages HTML, hein, c'est un site internet. Ça veut dire qu'en fait, vous avez plusieurs pages codées comme un site internet. C'est exactement la même chose. On prend ces pages et puis on les met dans un petit dossier qu'on renomme EPUB et hop, ça vous fait un livre numérique. C'est tout. C'est juste ça. Donc, l'idée, c'est de le simplifier au maximum pour que il prenne finalement les codes
de la lecture sur, sur Internet.
Moi, je pense que le marché est en train de se développer. Il se développe de manière très, très lente. On sent un vrai frémissement sur un certain nombre. Les grandes maisons d'édition s'y mettent petit à petit. Par exemple, les éditions J'ai lu développent des choses comme J'ai lu pour elle. Un roman, c'est quelque chose. Les éditions Harlequin, par exemple, sont très forts en numérique. Ça vient chez Editis, qui rassemble Pocket, 10-18, voilà. Depuis un an et demi, deux ans, ils ont enfin un mec dédié au numérique. Ça vient petit à petit, marchant. Mais pour l'instant, et pas avant de nombreuses années, ça ne remettra absolument pas en cause le modèle classique du livre papier. Les deux coexistent, c'est pas grave.
D'accord, parce que je trouve que c'est un produit numérique intéressant dans le sens où on n'a pas non plus toujours assez de place pour gérer tous ces livres, tous ces objets. C'est intéressant, mais il y a un moment où ça déborde.
Et moi, je trouve que c'est un produit intéressant parce que ça me permet de faire des livres que je ne pourrais pas prendre le risque de faire en papier. Quand Philippe Cazin m'envoie des nouvelles, je sais très bien que si je fais un livre papier, je vais faire 60 pages, parce que c'est des short, short stories, et que donc économiquement, il ne sera pas rentable. Par contre, je peux faire un livre numérique et m'amuser avec ça. Voilà, donc c'est un outil qui est intéressant en termes de création, c'est un outil qui est intéressant pour le lecteur. Quelque part, peut-être que un livre équivalent, ça nous oblige encore plus sur les livres papier à faire des objets de désir, parce que si tu n'as plus de place entre le livre numérique et le livre papier, c'est Dunia qui disait ça, et il a tout à fait raison. Ça va en falloir que le bouquin soit beau pour que tu le prennes chez toi. Quoi. C'est un format qui est intéressant et je pense qu'en plus, en termes artistiques, on ne s'est pas encore vraiment complètement emparé du sujet. Il y a eu des tentatives, le Diable d'ailleurs, avec Ayurda, l'avait fait, ou avec Caranda, le Feuille de Lin, etc. Oui, c'est encore un peu compliqué et il n'y a pas encore tout à fait la rentabilité économique. Donc voilà. Mais je pense que c'est un format sur lequel on peut vraiment beaucoup s'amuser et bien s'éclater.
Sur le feuilletonnage, par exemple, aujourd'hui, on a des solutions, par exemple, via le numérique, via Internet, qui peuvent être intéressantes, par exemple, avec le Tipeee. Les gens payent ce qu'ils veulent, mais ça permet effectivement de. Alors, il y a toute une pédagogie à avoir aussi avec les lecteurs là-dessus, hein, mais finalement, l'auteur va mettre une petite partie de texte à disposition, un Tipeee va être proposé, et petit à petit, il va constituer son texte, le feuilletonner. Effectivement, et obtenir des lecteurs, une certaine somme, qui lui permettront d'acquérir des droits d'auteur.
C'est comme il y a un mec qui fait ça, je me souviens plus du nom, lui il a acheté tous les droits de Charles Strauss, du site de la Laverie, et il propose un truc très simple, t'as un abonnement et tu reçois tous les mois une nouvelle. Et il est en train de faire ça. Voilà une initiative qui est super intéressante, parce que ça nous change complètement de notre modèle. C'est bien, les choses bougent. Beaucoup et grâce au numérique.
Il y avait une autre question dans la question, c'est est-ce que maintenant, le narrateur ne peut plus parler, c'est génial.
Non, mais c'est bien,
parce qu'il faut qu'il termine.
Il va falloir qu'on boucle à un moment.
Très bien. Et les auteurs ne peuvent-ils pas se publier eux-mêmes sur Internet maintenant?
Alors,
c'est une vaste question.
Vaut mieux être chez la QSF ou le Peuple de Mieux que tout seul sur Internet.
Pas forcément.
Ça dépend.
Alors, parce que je fais quoi? Comment tu dis? Enfin, moi, j'ai un exemple.
Gars, il dit
Amazon.
Quel commande?
Oui, enfin, c'est effectivement, il y a eu un exemple. Moi, j'ai un exemple là-dessus. L'un de mes auteurs a deux romans chez moi. Voilà, ça se passe très bien. On va avoir le troisième très bientôt, etc. Il a auto-édité un petit bouquin sur les violences scolaires. Il est prof. Sébastien Tissandier. Sur les violences scolaires. Il a fait 4 fois plus de ventes que toutes les ventes qu'il a faites chez le Peuple de Mieux.
Oui, mais ça c'était particulier, c'était
inventé. Peut-être, mais ça veut. C'est aussi une communication, il n'a pas profité de sa notoriété au Peuple de Mieux pour bénéficier de ces ventes-là. C'est qu'il y a toute une fanbase, il y a toute une constitution, effectivement, d'un certain nombre de réseaux qu'on peut avoir. Il y a sa présence sur Twitter, sa présence sur Facebook, le fait d'avoir un blog, le fait de démultiplier comme ça des contacts au sein de différents forums, etc. On amène de toute façon des personnes à venir acheter sur Amazon ou sur le site de l'auteur, effectivement, les bouquins. Donc ça, ça fonctionne. Enfin, je veux dire, pour certains auteurs, ça marche. Par contre, c'est l'arbre qui cache la forêt, ça ne marche pas pour tous les auteurs.
C'est ce qu'on a fait sur Bad Wolf. Hein. Bad Wolf, c'est notre collection de Fortism. C'est d'abord un label numérique porté par les auteurs, avec Christophe Arleston dedans, donc c'est toujours un peu plus simple. Mais ils ont d'abord mis leur bouquin en numérique, et ensuite ils ont cherché un éditeur papier.
Je me dis, si l'éditeur ne prend pas, c'est ton bouquin, il n'est pas bien. Alors,
ça, c'était une réflexion qu'on avait il y a 10 ans. La réflexion, c'était de se dire, si un bouquin paraît en numérique, c'est un bouquin qui n'est pas assez bon.
Non, mais je n'ai pas dit en numérique, j'ai dit.
Non, en auto-publication. Ouais. Sauf que ce n'est plus tout à fait vrai. Et ce n'est plus tout à fait vrai pour au moins 3 raisons. 1, 500 bouquins chez moi reçus, chez ActuSN, d'accord, pour au mieux 2 places. Ce qui veut dire que je suis techniquement complètement capable de louper un chef-d'œuvre. Je vais vous raconter une histoire. Hein. Frédéric Rivalt, qui avec les cannes de l'oubli a fait 6000 exemplaires, je viens de retrouver un mail où il m'écrivait en 2012 parce qu'il avait une galère d'éditeur à cette époque-là, il cherchait à se faire éditer et il passait complètement à travers. Très bien. Tant pis pour moi. Voilà. Deuxième chose, tu as des communautés aujourd'hui sur internet de type Wattpad ou autre, hein, comme Nano Brito, etc., des gens qui écrivent sur internet, qui ont des forums, des communautés, des lecteurs, et parfois plus fort que nous. D'accord. Troisième chose, et ça c'est un phénomène qui est américain mais qui est aussi en France, il y a un certain nombre de gens qui ne se reconnaissent pas forcément dans les éditeurs classiques et qui préfèrent publier sur le net. C'est-à-dire qu'on fait un constat faux, on fait un constat, parce que nous sommes éditeurs, nous faisons le constat que tout le monde a envie d'éditer un livre. Et plutôt chez nous. D'accord ? Mais c'est pas vrai. C'est plus du tout vrai. J'ai eu une grande discussion l'été dernier sur la représentation des auteurs noirs, notamment aux États-Unis, en science-fiction. Et la discussion, c'est qu'il y a eu une étude qui disait qu'il y avait 5% de nouvelles écrites par des auteurs noirs en 2015 aux États-Unis, alors que il représente plus de 14% de la population. Donc, il faut se poser la question de, ok, pourquoi il n'y a pas d'auteurs noirs ou de minorités ? Je n'aime pas les mots, mais en tout cas, pourquoi il n'y a pas ça ? Et j'en discutais avec une amie et qui disait, mais les auteurs blacks ne se reconnaissent pas dans la science-fiction, il n'y a pas de héros blacks. Donc forcément, ils n'en disent pas avec. Et au final, ils préfèrent largement aller publier des textes parfois sur Internet, où ils vont se retrouver là-dedans, dans ce format-là, que plutôt dans une littérature qui ne les a pas pris en compte jusqu'ici. Donc, ce qui veut bien dire que la question est beaucoup plus complexe désormais que simplement ce qu'on disait, un bon texte doit être édité, un mauvais texte est autopublié.
Ça marche avec la musique, ça me semble. T'as pas un label, tu fais ton CD,
Aujourd'hui,
tu fais des concerts, ça marche pas, les produits,
Je publie Sorcière Associée, c'est Alex Evans. Alex, elle a publié d'abord dans des maisons d'édition numérique, elle s'est aussi auto-publiée, elle avait la plus grande méfiance pour les auteurs papier.
Quand on grandit avec le papier.
Peur de se faire avoir, peur des contrats, peur de plus être maître de ses droits d'auteur, plus d'être maître de ses textes, c'est compliqué. Juste pour dire que la question a vachement évolué et qu'effectivement, David Brin, il y a 10 ans, disait... un auteur auto-publié est un mauvais auteur, ouais. C'est plus si vrai que ça.
Ouais, peut-être pour vous qui êtes dans l'édition, mais pour le grand public, je ne sais pas si ça.
Bah, oui, non.
Tu prends des auteurs des auto-édités dans 3-4 ans ?
Comment ?
Tu prends quelques auteurs auto-édités dans tes réunions, tu en achètes de temps en temps ?
Alors, c'est très simple. On est soumis à la loi sur les marchés.
Ah, mais t'es en marché, d'accord.
Donc la question ne se pose même pas une seule seconde. Déjà. Avoir avant la création du dépôt imaginaire, avoir organique ou le peuple de mieux était quasiment impossible. Voilà. Maintenant qu'il y a le dépôt imaginaire qui est distribué, ma vie est devenue plus simple et je peux avoir de petits éditeurs. Voilà. On l'a dit tout à l'heure, on est arrivé à l'heure où normalement j'aurais dû vous dire dernière question. Donc dernière question.
Sur les nouveautés qui vont sortir, je ne sais pas.
Une question, Laetitia.
Petite question, juste. Qu'est-ce que ça a changé de vous associer avec Mémos et les Moutons ? Pourquoi ?
Alors, c'est un peu la démarche de la vie et du dépôt. En gros, l'idée, c'est que
nous sommes dans un univers concurrentiel, mais c'est né sur le centre-ville de Paris où on s'est mis à côté avec Mnemos et on s'est dit mais ça ne met absolument pas à nous vendre d'être à côté, et en plus le mec qui cherche un livre de fantasy, il va plutôt passer par notre coin parce qu'il y a deux éditeurs plutôt que de courir dans tout ça. Et on s'est dit qu'en fait en travaillant ensemble, on pouvait tout changer. Ça ne touche absolument pas nos choix économiques, mais on peut, on a le même diffuseur distributeur, peser plus en termes de négociation. On peut faire, on a plus de moyens de communication. Nous avons aujourd'hui un magazine gratuit tiré à 5000 exemplaires deux fois par an. Nous avons des stands en commun qui sont nos plus attractifs parce que plus gros et plus joli. Plus joli que les stands, c'est pas mieux. Nous pouvons avoir des collections ensemble, collection Helios, collection Naos. Ça veut dire quoi? Une collection, elle vit en librairie parce qu'il y a des nouveautés tout le temps. D'accord? Bon, et ben si au mois de mai je ne fais pas un Helios, un de mes petits camarades fait un Helios. Donc la collection, elle vit. Donc je n'ai pas à porter le poids tout seul de toute la collection. Naos, c'est une collection qui aura 10-15 titres par an. Moi, j'en ferai 3 ou 4. Donc, voilà. Donc ça sert à tout ça et à plein d'autres choses, à plein d'initiatives en commune. Ça sert aussi de manière. De manière morale et personnelle, c'est quelque chose qui est génial. C'est-à-dire que ça participe d'un bouillonnement intellectuel permanent, absolument d'enfer. T'es plus tout seul, quoi. Il y a beaucoup d'échanges d'expériences. Il y a beaucoup de projets qui sont beaucoup plus amusants à créer à plusieurs que tout seul dans son coin. C'est absolument parfait, quoi. Et puis c'est une tendance. Et puis c'est plus simple. Et puis pour se défendre face à la librairie, la commercialisation, etc. C'est essentiel. C'est essentiel. Ça ne veut pas dire que chacun n'est pas maître de ses choix. Ça ne veut pas dire que quand le dépôt se monte, j'y vais, mes petits camarades ne souhaitent pas y aller pour l'instant. C'est pas grave, j'ai ma liberté, mon chien.
Et du coup, comment vous choisissez justement pour les collections Naos et Helios, enfin, qui fait quoi?
Alors, qui fait quoi? Tout le monde fait tout. En fait, si tu veux, ce sont des traitements. Donc, chaque éditeur à son livre. Par exemple, ça, c'est un livre de Mnemos. Donc, commercialement, comptablement parlant, c'est un livre de Mnemos. Donc, si en tant que lecteur, en tant que libraire, tu ne le sais pas, il faut regarder dans les pages pour le savoir. Donc, chacun apporte des titres à la collection, chacun est maître de ses choix éditoriaux, même si nous avons une ligne graphique sur laquelle nous discutons, même si désormais avec Helios, et ça arrive maintenant avec Naos, on commence à avoir du recul pour dire bah voilà, ça marche, ça marche pas. Donc, peut-être que ta manière de faire, elle n'est pas efficace, tu as perdu des thunes et tu as nuit à la collection, il faut peut-être faire un petit peu différemment. Voilà, c'est du partage aussi de chiffres et d'expériences de manière concrète. Des décisions se passant ensemble et en commun, quasiment toujours à l'unanimité, même si on pourrait dire on est trois, on est un trouple, donc deux marchent plus qu'un, quoi. Mais à la vérité, il faut une unanimité si on veut avoir des enfants. Enfin, un élan. Donc, qui fait quoi? Tout le monde fait ses propres livres et tout le monde réfléchit à la globalité. Et après, chacun a sa thématique. Hein. Tout le monde est différent.
Merci. Je crois qu'on a bien compris, en fait, en matière de qualité, etc. Finalement, c'est pas la taille qui compte.
C'est ce que dit ma femme. Mais j'arrête.